Pourquoi tant de gens suivent-ils ces faux prophètes? Ils se sentent vides et incompris par la médecine conventionnelle. Et nous ne sommes pas très bons. Ou disons que vous n'êtes pas très bons. Ça veut dire, voyons si ça marche. Ce que ce gourou dit aux gens dans un monde où plus de la moitié des diagnostics sont erronés. Devrions-nous trouver de nouvelles approches de la maladie, plus holistiques, individuelles, incluant des aspects comme le mode de vie, la santé mentale et spirituelle? Gina, pourriez-vous nous lancer sur cette question?
Oui, eh bien, la réponse courte est oui, c'est rapide. Mais je pense que la médecine a trop longtemps ignoré l'idée que ce qui se passe dans le monde extérieur, un peu comme le rocher ou autre, a un impact important, et que le mode de vie et le vécu des gens ont un impact majeur. Même si la médecine s'en tient à cela, il doit y avoir un problème physique. Ils ignorent le fait que ce que nous, neuroscientifiques cognitifs sociaux, avons démontré, c'est qu'il existe des événements majeurs qui modifient le cerveau dans le monde extérieur. L'un des domaines que j'étudie pour comprendre les différences dans l'autisme est le harcèlement. En observant comment les individus ont été victimes de harcèlement, dont souffrent malheureusement de nombreux autistes, on peut observer comment le cerveau a été modifié, ce qui a un impact sur leur comportement. La médecine pourrait donc se contenter d'examiner ce cerveau modifié et de dire « Oh, il y a un facteur génétique », sans se demander s'il y a d'autres facteurs externes susceptibles d'entraîner ce genre de problème. Je pense donc que ce serait un enjeu clé. Comment y répondre au mieux?
Il y a des aspects très élémentaires qui n'ont pas été étudiés. Je pense à des choses simples comme le toucher. Ashley Montague et d'autres Britanniques, les Britanniques sont parmi les personnes les plus intactes au monde. Il a écrit un livre sur le toucher. C'est ce qu'on fait quand on ne sait pas quelque chose. Un livre fantastique. Il n'existe pratiquement aucune recherche sur le pouvoir du toucher sur le système immunitaire. Du coup, comme mon livre a un tel succès, nous avons maintenant une fondation et nous avons financé une étude pour étudier le rôle du toucher. C'est un enjeu majeur en médecine. Le fait d'être touché ou non par une infirmière ou d'être laissé seul devant un écran peut faire une énorme différence. Des choses aussi élémentaires que nous ignorons. Les Britanniques connaissaient l'attachement. John Bowlby a montré qu'une mère qui reste dans la chambre de son enfant a un effet spectaculaire sur l'évolution de la maladie. Aujourd'hui, en pédiatrie, les parents sont autorisés à être dans la même pièce que leurs enfants, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, quelle différence cela fait-il d'avoir quelqu'un qui se sent aimé dans sa chambre et qui vous touche, plutôt que d'être dans une pièce avec des écrans? Il m'arrive d'aller à l'hôpital et, jour et nuit, les moniteurs et les systèmes de radiomessagerie s'éteignent, et on n'arrive même pas à dormir, car on est concentré sur la chimie et non sur le sujet. Pour la plupart des gens, l'incontinence urinaire est une expérience traumatisante. Jour et nuit, on est stimulé et le cerveau ne se repose pas. Il y a donc des choses très élémentaires qui ne sont pas prises en compte à ce stade, car on est trop concentré sur la technologie.
Oui, qu'en penses-tu, John? Serais-tu d'accord pour dire qu'il faut examiner l'environnement hospitalier beaucoup plus en détail? Je suis tout à fait favorable à une analyse complète.
Cela pourrait être social, communautaire, environnemental, les conditions, le préconditionnement. L'exemple du toucher est très intéressant, mais malgré tout, je pense qu'il est important de s'en tenir à une étude rigoureuse. Vous savez, pas seulement dire « Oh, c'est une idée formidable ».
Quand je dis des choses comme ce qu'il dit, vous dites que vous l'étudiez très rigoureusement. Vous savez ce que je fais? J'étudie les choses rigoureusement. Je suis professeur à Harvard et maintenant à l'université de Boston, alors ne dites pas « Oh, vous savez, c'est rigoureux ». Non, vous devriez étudier les bonnes matières rigoureusement. Donc, par là, je veux dire qu'ils doivent être soumis à des tests expérimentaux chaque fois que c'est possible. Absolument.
Avec des méthodes rigoureuses.
Et aussi, s'assurer qu'ils font une différence. Et la question devient alors, et aussi, ils font une différence pourquoi? Parce que si, vous savez, le toucher, je pense que c'est très important. Est-ce que je veux qu'ils fassent une différence dans la réponse immunitaire? Vous savez, mesurer les niveaux d'interleucan et dire que l'interleucan 15 a augmenté après que vous m'ayez touché, je m'en ficherais complètement. Je me sens bien quand on me touche, pour de nombreuses raisons. Il faut comprendre pourquoi et ce que l'on cherche à mesurer, et ce qui est vraiment important dans ce phénomène, et de quoi avons-nous vraiment besoin? Pour cela, il faut interroger les gens, les personnes en bonne santé et les patients. Les patients peuvent avoir un point de vue très différent de celui du chercheur ou de l'expert sur ce qui compte pour eux. Les personnes en bonne santé ont leurs propres priorités et je pense que c'est toujours un sujet dont il faut discuter avec eux et comprendre pourquoi on fait tout ça. Quel est notre objectif? Qu'essayons-nous d'accomplir? Comment essayons-nous d'améliorer nos vies? Juste ajouter un diagnostic, vous savez que vous avez ceci, cela, 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 etc. Je suis chercheur, donc je peux tous vous rendre malade ce soir, c'est très facile. Ce n'est pas un bon objectif, n'est-ce pas? Je veux que vous vous sentiez mieux, pas que, oh là là, je dois voir 20 spécialistes demain matin parce que je souffre de 25 maladies.
Quelles sont les modalités qui, selon vous, ne sont pas étudiées avec suffisamment de rigueur?
Presque rien n'est étudié avec rigueur. Je pense donc que cela s'applique aussi bien aux interventions traditionnelles issues de la pensée mécaniste, de l'approche réductionniste, une molécule, un gène ou une cible, puis nous développons un produit biologique ou un médicament et essayons de le commercialiser. Nous savons qu'il y a des milliards de problèmes dans ce processus, notamment des biais liés à la définition des priorités, au lieu que les agences de réglementation paient vraiment leur dû à l'industrie, et qui, vous savez, ne reconnaissent pas les effets néfastes aussi bien qu'elles le devraient. Il y a donc beaucoup de problèmes. Maintenant, une fois que vous passez au mode de vie, oh là là, presque toute la littérature sur le mode de vie, même si c'est si important, n'est pas fiable. Si vous optez pour la médecine holistique, vous vous trouvez actuellement à la frontière entre science et pseudo-science. Non pas que les visions holistiques soient sans importance, mais parce que nous sommes principalement dans le régime de Johnny et du gourou qui affirment que telle est la vision holistique de la santé mentale ou de l'intégration de l'être. Et vous savez, je pense qu'il y a tellement d'absurdités qui auraient pu être évitées si nous nous étions contentés d'évaluations et de tests de base. Nous pourrions peut-être en tirer beaucoup de bénéfices. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner, mais tant que ce n'est pas fait, je suis très sceptique. Je suis plus sceptique que pour les interventions mécanistes traditionnelles, qui présentent des problèmes. Battle, qu'en pensez-vous? Vous savez, je vis dans votre monde, donc je connais vos arguments et ils sont valables. J'ai aussi été irrité, notamment lors de cette conférence, par le nombre de personnes qui exprimaient leurs sentiments et leurs émotions sans aucune donnée, alors que je suis un expert en données. D'un autre côté, pourquoi tant de gens suivent-ils ces faux prophètes? Ils se sentent vides et incompris dans la médecine conventionnelle. Et nous ne sommes pas très bons, ou disons que vous n'êtes pas très bons. Il dit, voyons si ça marche. Ce gourou dit aux gens qu'il y a ce truc, vous savez, les gens dépensent probablement autant d'argent en médecine alternative qu'en médecine conventionnelle. Il y a une raison à cela, disons que nous échouons. Alors ils vont ailleurs et nous ne sommes pas particulièrement désireux d'aider le monde à comprendre ce qui pourrait ou non être utile dans ces autres méthodes. Je préconiserai donc une plus grande curiosité scientifique, notamment pour savoir ce que ces personnes ou ces méthodes ont à offrir. Ce qui me dérange aussi, c'est que nombre de mes collègues du domaine de la psychologie se contentent d'affirmer des choses sans preuve. Comment former de jeunes professionnels qui affirment ne pas pouvoir se contenter d'affirmer des choses, mais doivent aussi les prouver? Comment changer cette culture du professionnalisme, où l'on évalue systématiquement tous ces résultats? En psychologie et en psychiatrie, c'est quasiment impossible. Je suis donc tout à fait d'accord avec vous, oui, nous avons besoin de preuves, mais nous devons aussi promouvoir leur collecte, ce que nous ne faisons pas.
Pour revenir à ce qui se joue, je pense. L'idée que la médecine psychologique a un sérieux problème d'image est vraie. J'avais un collègue scientifique de haut rang qui a beaucoup souffert d'une longue Covid et qui espérait obtenir de l'aide. Il a reçu un courriel indigné m'informant qu'il venait d'obtenir un rendez-vous au service de médecine psychologique. Pense-t-il que tout est dans la tête? D'où l'idée que c'est un terme péjoratif, que je reprends un peu. Et c'est intéressant, j'ai remarqué que lorsqu'on les écarte, on les qualifie souvent de « touchy-fait ». C'est peut-être un autre problème. Mais je pense que c'est là que la médecine a dit que ça devait être dans le corps. Et dans l'autisme, par exemple, il y a eu des pathologies qui ont fait partie du diagnostic, puis on a découvert une origine génétique et, fièrement, on l'a retirée du diagnostic psychologique pour l'intégrer au diagnostic physique. Donc, je pense qu'il y a parfois un problème. Les gens ne réalisent pas que je n'aborderai pas encore le débat cerveau-esprit. Notre cerveau peut être profondément modifié et il existe une interaction bilatérale importante avec le monde, que la médecine, je pense, ignore.
Je suis tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Vous savez, lorsque nous examinons les études longitudinales sur les populations à haut risque, il y en a environ 4 ou 5 actuellement, nous constatons que si l'on se concentre sur la biologie très tôt dans la vie de ces enfants, cela a un impact sur leur évolution tout au long de leur vie, mais que les relations de sécurité et de soutien social, à la fin, ont un impact considérable sur l'expression de ces gènes. La question de l'épigénétique devient donc cruciale. Comment les gènes s'expriment-ils dans le contexte de l'environnement? Nous pourrions approfondir ce sujet. Oui.
Je passe à la question suivante. Si nous acceptons l'idée que nous ne savons pas comment, continuez à regarder cette vidéo, cliquez sur le lien en haut à gauche ou dans la description ci-dessous, ou visitez 2.tv pour plus de débats et de conférences animées par les plus grands penseurs mondiaux sur les grandes idées actuelles.